Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario !
Ouais ! Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious !
Il est espagnol, Rafael Nadal !
Salut, c'est Max. Bienvenue pour ce 29e épisode du podcast Tennis Légende. Aujourd'hui, c'est une voix féminine que l'on a au micro. Il s'agit de Mandy Minella, la numéro 1 luxembourgeoise depuis plus de 10 ans. Et je dois dire que ça fait plaisir. Plus habituée au circuit secondaire et donc à perdre majoritairement, Mandy a su se remettre en question pour faire évoluer son jeu et en découdre avec les toutes meilleures depuis 2012. Elle nous explique l'équilibre financier qu'elle a construit en jouant les grands chelems mais aussi les matchs par équipe dans plusieurs pays, puis en conjuguant vie de circuit et vie de maman avec son mari qui est également son coach et même un peu nounou dans le Players Lounge lors des matchs de notre championne. Mandy revient pour nous sur une anecdote assez folle qui montre bien les péripéties qui se passent parfois dans les tournois de l'ombre. Heureusement que tout s'est bien fini sur l'île de Chypre, avec un précédent invité du podcast, Marcos Baghdatis, tout sourire, comme d'hab quoi. Notre invité confie avoir perdu du temps, car malgré une forte volonté, elle avoue ne pas avoir toujours pris le bon chemin, ni s'être entourée des bonnes personnes. Mandy nous partage deux de ses plus gros frissons, et à chaque fois c'est aux US tout simplement, sur les plus grands cours du monde, en night session, au centre d'arène, pleine à craquer. On aborde un sujet récurrent de certaines interviews, celui du lâcher-prise. J'ai pu me rendre compte en ayant tourné un paquet d'entretiens que les joueurs et joueuses jouent parfois leur meilleur tennis en toute fin de carrière, quand la pression est totalement retombée, qu'il n'y a presque plus d'enjeu, sauf celui de profiter pleinement de l'événement. Mandy nous en parle et on essaie de comprendre ensemble comment accéder à cette sensation le plus souvent possible. Notre audience masculine sera ravie, puisque vous allez en savoir plus sur le fait d'être enceinte sur le circuit. Vous allez donc pouvoir conseiller vos compagnes fans de tennis. On termine en parlant réseaux sociaux, sponsors, et vous aurez même le secret de la recette la mieux réussie de Mandy. Alors croyez-moi, ça vaut le coup d'aller au bout de cette interview rafraîchissante qui vous est proposée en collaboration avec Yonex. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro, puisque la marque Nippon, qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle, accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et la WTA, comme Wawrinka et Osaka, mais aussi les explosifs Kyrgios et Shapovalov, l'Allemande Kerber, l'étoile montante norvégienne Casper Ruud ou encore les Frenchies Pierre-Hugues Herbert et Fiona Ferro. Si vous avez 4 secondes et demie et que vous voulez changer nos vies, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. Et partagez vos épisodes préférés en abonnant vos amis en manque de tennis. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Place au 29e épisode avec Mandy Minella. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté pour l'interview. Est-ce que tu as un surnom, Mandy, pour commencer ?
Ici, c'est Minoul. Bon,
voilà, très bien.
Parce que, bon, à mon avis, c'est dérivé du nom de famille. Et puis, ils ont commencé à m'appeler comme ça au Luxembourg quand j'avais 12-13 ans. Et puis, c'est resté.
Ok, très bien. Bon, alors, c'est parti. Alors, Minoul, tu es né le 22 novembre 85 à Esch-sur-Alzette. Je l'ai bien prononcé.
Esch-sur-Alzette, oui,
voilà.
C'est ça.
Au Luxembourg, tu mesures 1m80, tu as commencé le tennis à 5 ans, tu parles 5 langues, le luxembourgeois, allemand, français, italien, anglais. Tu es joueuse de tennis pro depuis 2001, tu as commencé à 14 ans, tu as été 66e à ton meilleur en simple en 2012 et 47e en double en 2013. Tu as gagné un 125 000 en 2016 à Bol, en Croatie. Au tournoi de Wimbledon en 2017, après avoir perdu contre Skiavon, tu as annoncé avoir joué enceinte de 4 mois. Tu as interrompu ta carrière pour devenir maman avant de revenir avec brio pour faire finale dans les Alpages suisses à Gstaad en 2018 contre notre compatriote Alizé Cornet qui est passé sur ce podcast. Tu es coaché par Tim Sommer qui est également ton compagnon. Tu as été 20 fois tableau final de Grand Chelem à ce jour en simple et en double. Tu as aussi remporté 2 tournois en double associés à Timea Babos à Bogota et Marrakech en 2013 et fait 4 autres finales. Tu représentes l'équipe luxembourgeoise de Fed Cup depuis 2000 et t'es numéro 1 luxembourgeoise depuis 2011. Tu as d'ailleurs été nommée sportive du pays cette année-là. Il me semble que tu as eu Joe Tsonga et Marcos Baghdatis comme petit ami sur le circuit. Tu pourras nous confirmer. Ah, ça, c'est des interviews que j'ai faites, Mandy. Hein, ça ne trompe pas. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire Quelle est la fierté du Luxembourg? J'entends par là la richesse de ton pays que je ne connais pas.
La fierté du Luxembourg, donc je dirais que c'est quand même, la fierté, la richesse, c'est tous les travaux en sidérurgie, donc dans les années 50-60. Donc il y a eu un gros travail dans la sidérurgie pendant ces années-là. Et donc je pense qu'il y a eu une grosse exportation, ce qui a fait que le pays gagne beaucoup d'argent. Et là, dernièrement, c'est beaucoup les banques, les finances. Donc c'est un peu avec quoi les gens ils pensent quand je dis que je suis du Luxembourg.
Est-ce que ça va être la direction de ta reconversion ou on n'en est pas du tout dans cette voie-là?
Ah non, pas du tout les banques. Je pense que j'aimerais bien rester dans le sport. Quelque chose qui a à faire avec le sport quand même.
Ok. Pour reprendre la genèse, tu as donc commencé à 5 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis et pourquoi tu as accroché particulièrement avec ce sport?
Oui, donc c'est mon papa en fait qui m'a proposé de faire quelques sports. Donc il m'a toujours encouragée à faire du sport. À 5 ans, il m'a dit si tu veux, on peut essayer le tennis. Et c'est un sport auquel j'ai accroché. Je n'ai jamais arrêté. J'ai fait d'autres sports à côté, mais le tennis, c'est le sport où j'étais, disons, où j'avais peut-être le plus de talent. Voilà, où j'avais quelques résultats. Je pense que quand on gagne des petits tournois de mini-tennis, ça donne envie de continuer. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais lâché.
Comment ça se passe au Luxembourg, au niveau de la Fédé, des structures d'entraînement, tout ça, comment tu as été prise en charge?
Donc à l'époque, je suis rentrée à la Fédé à 11 ans, je pense qu'on avait un très bon système. J'étais avec les filles du groupe qui avait une année en plus que moi, et souvent on se déplaçait sur les tournois ITF, moins de 14, moins de 16, moins de 18, on était 3 filles, 3 garçons,
ouais.
Donc c'était quand même bien parce qu'ils nous ont fait jouer. Je pense que c'est important de faire beaucoup de matchs à côté de l'école. Et puis, j'avais de la chance de vivre pas loin de la frontière française et allemande. Donc, j'allais aussi un petit peu à l'étranger, les week-ends, faire des petits tournois. Donc, progressivement, j'ai fait toujours plus de tournois. J'ai pu voir où j'en étais avec mon niveau. Aussi avec les filles qui était de la France ou de l'Allemagne, enfin avec les plus fortes, hein, parce que sinon, on ne voit pas trop où on en est.
Ok. Et tu te situais où tout de suite quand tu étais jeune? Tu étais parmi les meilleurs ou comment était ta progression?
Au Luxembourg, oui, j'étais parmi les meilleurs. C'est pour ça que j'ai pu rentrer dans la Fédé. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de retard par rapport à l'étranger. C'est vrai que je suis allée à l'école encore jusqu'à 15 ans. J'avais un rythme plutôt aller doucement, si on peut dire. Alors qu'on sait que dans d'autres pays, les filles, elles travaillent déjà à fond pour arriver à des joueuses de tennis professionnelles. Je me rappelle qu'à l'époque, Sharapova ou Hingis, elles avaient déjà gagné un grand chelem à 17 ou 15 ans. Ouais. Alors que moi, j'étais encore à l'école. Donc, pour moi, c'était un autre monde, quoi. Et finalement, ma progression, elle a été un peu plus tard. Je pense que j'ai commencé à bien jouer au début de ma vingtaine, quoi.
D'accord. Le classement, le système de classement au Luxembourg, il est différent de celui français, j'imagine?
Oui, à l'époque, on avait des catégories. Et puis, dans certaines catégories, il y avait des numéros. Donc, disons que catégorie 1, c'était de la première place à la 25e place. Et ouais. Puis, catégorie 2, on enchaîne. Donc, ce n'était pas très compliqué.
Tu avais combien de catégories?
5 ou 6.
Et c'est donc, toujours le cas, c'est toujours comme ça?
Non, ça a changé un petit peu, mais honnêtement, j'ai un peu perdu
le fil
des classements luxembourgeois.
Est-ce que tu as participé au junior, au tournoi junior? Est-ce que tu as joué les grands chelems, par exemple, ou tu étais tout de suite sur le circuit?
Oui, j'ai participé à l'Australian Open.
Ouais.
Et puis, j'ai fait des grosses tournées avec des tournois juniors de groupe 1 en Amérique du Sud. En Asie aussi. Après, ma dernière année, l'année de mes 18 ans, je suis quand même partie sur le circuit ITF, WTA.
Okay.
Donc, j'ai pas fait tous les grands chelems juniors. Ce qui est dommage parce que finalement, c'est une belle expérience. Et puis, on peut déjà voir un petit peu où est-ce qu'on a envie d'aller. On voit les grands s'entraîner, l'état d'esprit. Donc, je pense que ça aide beaucoup.
Ouais, ça a été sérieux assez rapidement. À partir de quel moment tu as commencé à rêver d'être joueuse de tennis professionnelle? À quel âge?
C'est marrant, mais je pense que j'ai eu ça en tête depuis que j'étais quand même assez jeune. Allez, 10-11 ans, je commençais déjà à y réfléchir. Ouais. Et j'avais un entraîneur au Luxembourg, en fait, qui me faisait rêver un peu. Il me disait à chaque fois, regarde Mandy, les joueuses, quand elles s'entraînent, elles ont du public autour qui les regarde, tu peux gagner ta vie avec le tennis. Donc en gros, il me mettait un peu l'eau à la bouche avec le tennis. Et puis on avait donc le tournoi du Luxembourg où j'étais ramasseuse de balles. Et j'ai remarqué voilà, que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Des filles sur le court, je trouvais ça incroyable de pouvoir jouer sur un court comme ça avec du public et tout. Donc, quand j'avais 15 ans, on a décidé avec mes parents d'intégrer une académie à Paris. Donc, à l'époque, c'était l'académie Bob Brett
à Montreuil. Ouais.
Parce que aussi, on avait notre meilleur joueur luxembourgeois, Gilles Müller, qui était numéro 1 mondial junior d'ailleurs, qui y était. Donc, il a fait un peu de pub pour moi, quoi.
D'accord. Chez les juniors, quel a été ton meilleur résultat en Grand Chelem ?
Oula, j'ai été loin. J'avais pas passé mon tour en Australie. J'avais que fait l'Australie. Ouais. Donc, je pense que j'ai dû être 90 junior. Donc, c'était pas monstrueux.
Tu te souviens d'une année ? Ouais, pardon. Dis-moi.
Sur d'autres tournois, j'ai dû faire quelques résultats, mais j'étais pas une bonne joueuse en junior, en fait.
Tu te souviens d'une anecdote particulière avec des filles de l'époque qui sont devenues très fortes, mais quand vous étiez jeune, personne ne connaissait l'avenir, quoi, tu vois.
Ah oui, ben, honnêtement, maintenant, il n'y en a plus trop de mon année en junior. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, ou il y en a même des très fortes qui sont jamais arrivées à gagner leur vie avec le tennis.
Ouais.
Mais oui, après, je me rappelle, la numéro 1 de l'époque, chez moi, c'était Strizova. Et elle y est encore. Et déjà, à l'époque, elle était tellement tenace. Elle était fou. Elle était dure sur le court. Elle l'est encore maintenant. Mais voilà, c'est une athlète extraordinaire. C'est vrai qu'on se rappelle. On se rappelle quand même des juniors.
Toi, t'étais comment, toi, sur le court à ce moment-là ?
Je pense que je jouais bien au tennis, mais j'étais trop gentille. J'avais trop de respect. Au Luxembourg, la mentalité, c'est oui, nous, on est petits, on n'est pas très forts, on n'est pas très bons en sport. Et puis, il y avait les grandes nations qui étaient incroyables, ils avaient des sponsors. Enfin, c'était quand même très impressionnant. Et du coup, je pense que je ne croyais pas assez que ben, voilà, je pouvais quand même faire partie des meilleurs, quoi. Et ça m'a coûté quelques années.
En arrivant à Montreuil, chez Bob Brett, c'était pas trop dur d'être loin de ta famille, un peu loin de tout ça? Comment tu l'as vécu?
Non, j'étais quand même très contente de faire cette aventure. J'étais quelqu'un qui a toujours regardé vers l'avant. J'avais ce projet en tête, j'avais surtout pas envie d'échouer. Et oui, c'est sûr qu'il y avait eu des moments durs, bien sûr. Je pense que c'était plus dur pour mes parents que pour moi. Mais j'étais tellement déterminée, motivée. J'ai eu un super groupe à Montreuil. C'est quand même des expériences géniales pour les jeunes.
Et c'est là où tu as rencontré Marcos Baghdatis.
Ouais, voilà, on s'entraînait ensemble. Voilà, on était des amis, des très bons amis au début.
Ouais.
On était quand même un beau groupe, quoi. Donc, voilà, forcément, on était jeunes. On était beaucoup ensemble et puis voilà. Mais
Pauline Parmentier m'a raconté une anecdote de dingue où vous étiez en Grèce, je ne sais pas où, et il vous avait envoyé un bateau parce que vous aviez un problème de visa ou je ne sais pas trop quoi, non ? Tu te souviens de ça ?
Oui, en fait, on était au Liban.
Ouais, au Liban.
En fait, c'est une histoire de fou. Je pense que c'était en 2008 et on était au Liban et il y a le Hezbollah qui a commencé à fermer les frontières au niveau de l'aéroport, aussi au niveau de la Syrie. Donc, aucun moyen de sortir du pays. Et le tournoi, il était en train d'être joué. Et on était tous coincés sur ce tournoi, au Liban, à Junier. Et du coup, on ne savait pas ce qui allait se passer, quoi. On ne savait pas, OK, comment on va pouvoir rentrer. C'est une histoire de fou, en fait. On était un groupe de 10 joueurs. On a décidé... indépendamment de l'organisation du tournoi, ben, qu'on avait envie de sortir du pays. Donc, on a tout essayé. Je me rappelle, il y avait Selim Asfar, une Tunisienne, qui a même essayé d'appeler le prince de Tunisie. Si vous pouvez nous envoyer un avion. Moi, il y avait le ministre de l'Extérieur qui a appelé chez mes parents en me disant qu'il fallait que je reste au même endroit parce que pour l'instant, là, Junie, c'était calme. Enfin, nous, on avait juste une envie de partir On a cherché tous les moyens de sortir du pays. On a trouvé un speedboat sur Internet. On l'a loué. On a payé une somme et puis on est parti pour aller à Chypre, quoi.
Incroyable.
Oui, c'est incroyable parce que maintenant, en fait, si j'y pense, ben, c'était quand même assez dangereux. Allez, on avait 5 heures de traversée sur un bateau où il y avait maximum 10 personnes. Enfin, on ne sait pas ce qui pouvait nous arriver, quoi.
Et vous étiez 10 joueurs dessus, joueurs et joueuses.
On était 10 et puis je sais qu'il y avait Olivia Sanchez, il y avait Méline Andrieux, je ne sais pas si tu te rappelles d'elle, il y avait Laura Thorpe, des Françaises, et puis il y avait une Canadienne aussi, Marie-Ève Pelletier.
Et donc c'est Marcos qui vous a accueilli, arrivé à Chypre, c'est ça?
Voilà, et du coup, il nous a accueillis, et heureusement qu'il était là, parce que finalement, quand on est arrivé à Chypre, eh ben, il voulait pas nous laisser rentrer, parce qu'on n'avait pas la permission de rentrer, même si nos passeports et nos visas, ils étaient valables. Je pense que pendant un bon moment, on devait rester dans le bateau. Ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Et finalement, ça a quand même fini par passer, quoi. Mais c'est vrai que... Allez, quand on est jeune, on en rigole, on fait des trucs fous. Mais maintenant, quand on y repense, c'était quand même assez dangereux.
C'est ouf. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier point WTA?
Je pense, oui. C'était sur un 10 000 en Belgique. Il y avait une grosse tournée de 10 000. Je crois que c'était Coxit, Ostend, Rebec, et j'avais fait mon premier quart là-bas, je crois.
Ok.
Ou peut-être c'était, oui, c'était là, ou peut-être c'était au Portugal sur un des minus.
Et comment tu gérais financièrement pour assurer les tournées, tout ça, quelles étaient tes ressources?
Ben, au tout début, quand je suis allée à l'académie, c'est bien sûr un petit peu mes parents qui m'ont aidée.
Ouais.
M'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient, mais voilà, ils n'avaient pas énormément d'argent non plus. Ils travaillaient tous les deux. Donc, en fait, je n'ai pas pu voyager avec un entraîneur. Donc, jusqu'à l'âge de 21 ans, de 16 à 21 ans, je voyageais la plupart du temps seule, ce qui D'accord. n'était pas idéal. Et puis, je finançais un peu mes voyages avec les matchs par équipe, quelques aides que j'avais par mon pays. Mais c'est vrai... Allez, j'étais sur un budget de 30 000 euros par année, sachant que là, allez, si on veut vraiment investir dans une structure professionnelle, on est quand même à environ entre 100 et 150 000 euros par an si on veut voyager toute l'année avec un entraîneur.
Ah, c'est costaud, hein, très costaud. Ouais. Comment tu as vécu du coup la traversée un peu de la jungle au départ, des 10 000, des 15 000, jusqu'en allant aux 25 000, comment s'est passée ton évolution?
Honnêtement, le début, c'était chaotique. C'était, oui, il y avait pas vraiment de ligne. J'étais entre les académies, les entraîneurs. J'avais pas vraiment un suivi très professionnel. J'avais une grosse volonté, mais j'avais pas le bon chemin en fait, et j'avais pas non plus les bonnes personnes qui m'ont guidée.
Ouais. Donc,
j'ai vraiment perdu énormément d'années où j'ai aussi fait des choix émotionnels. Plus émotionnel qu'au lieu de professionnel. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à percer un petit peu. J'ai eu une grosse blessure en 2006. J'ai eu une opération des ligaments croisés. Et donc, j'ai perdu vraiment une année. J'étais montée 220. Je pouvais enfin jouer les grands chelems.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai eu la blessure et j'ai dû recommencer quasiment à zéro l'année d'après.
Si tu devais transmettre ton expérience à une jeune joueuse, du coup, tu lui dirais de faire attention à quel niveau pour gagner du temps là où tu n'en as pas forcément gagné?
Ben, surtout d'être, aller d'investir peut-être un tout petit peu plus au début si elle le peut. Et puis de prendre l'expérience des gens qui connaissent le chemin, les gens qui sont vraiment dedans. Parce que honnêtement, il y a tellement d'entraîneurs, il y a tellement de gens qui veulent essayer de faire partie de ce monde. Et ils veulent le faire, ils veulent tellement y accéder, mais qu'ils connaissent rien ou qu'ils sont pas qualifiés pour. Et puis c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de charlatans quand même. Donc c'est important d'avoir des personnes qui ont l'expérience, même si c'est des anciens joueurs ou des anciennes joueuses qui connaissent comment faire une planification de tournoi. Voilà. il y a quand même énormément de détails qui aident à monter au classement aussi.
Du coup, de retour de ta blessure au genou, comment t'es redescendu combien et comment t'as géré la remontée, la remontada?
Oui, bah, j'ai dû redescendre à les 800. J'avais quelques classements protégés que j'ai mal utilisés parce que on m'a pas dit comment les utiliser, à quel moment. Et donc, je pense que j'ai mis 2 ans à remonter à mon classement initial, donc à 200. Et là, j'ai rencontré donc mon entraîneur Norbert Palmier, avec qui on s'est entraîné 3 ans et qui m'a mis un peu sur les bonnes rails. On avait vraiment un travail constant, un bon suivi. Je le partageais avec 2 autres joueuses, donc avec Méline Andrieux et Olivia Sanchez. Et donc financièrement, c'était intéressant pour moi et pour les autres filles. Et puis, il y avait quand même un suivi très sérieux pendant ces 3 ans. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à grimper au tennis.
Tu as senti un déclic à un moment donné qui t'a propulsé top 100 ou je ne sais pas, une manière dont ton jeu s'est construit, s'est solidifié? C'était quoi le...
Je pense que tout s'est construit un peu... petit à petit, il n'y a pas eu un gros déclic. Il y a eu une grosse victoire, un gros résultat en 2010 à l'US Open. C'est mon premier gros résultat. Mais c'était venu un petit peu sans que je l'attende, en fait. C'était une surprise parce que je ne savais pas que ça pouvait être possible aussi vite. Enfin, même le fait d'y croire, de passer les 3 tours dans les qualifs et puis de gagner 2 tours dans le tableau et de jouer en night session contre Venus Williams un samedi soir sur le plus gros court extérieur au monde. C'était comme un rêve, en fait. Je le voyais tout le temps à la télé, mais je ne pensais pas que j'en étais capable. Et donc, c'était un peu arrivé comme une surprise en 2010. Et puis, du coup, j'ai commencé à percer qu'en 2011, où j'ai commencé à croire en moi plus.
Sur cette US, tu es qualifiée à ce moment-là ou tu étais tableau d'entrée de jeu?
Je m'étais qualifiée.
Et tu peux nous raconter un peu le cheminement, la prise de confiance et je sais pas, la manière dont tu as géré ton match contre Miss Williams?
Oui, ben, écoute, dans les qualifs, j'ai donc commencé, c'était un de mes premiers grands chelems aussi. Ouais. Donc, chaque match déjà que je gagnais dans les qualifs, j'étais ultra heureuse. Le premier tour, j'avais battu une tête des séries d'entrée. Donc j'étais contente. Après, j'avais fait 2 matchs très solides contre des joueuses un peu du même classement. Et donc là, je me retrouve tableau final à l'US Open. Je joue contre Polona Herzog, qui est 40 mondiale.
Yes.
Et donc là, je m'échauffe. Les premiers jeux, voilà, j'arrive pas à la retourner. Je la trouve impressionnante. Et dans ma tête, voilà, j'ai l'impression que le rêve, il s'arrête là, quoi. Et finalement, je ne sais pas comment, mais j'ai gagné ce match et je ne peux pas te dire comment. J'ai l'impression que toutes mes balles, elles rentraient, même celles que je touchais à bout de raquette, je faisais un lob qui rentrait sur la ligne, tu vois. Et du coup, voilà, elle, je pense qu'elle n'a pas fait son meilleur match. Elle était stressée. Pour elle aussi, c'est un premier tour de Grand Chelem. Et du coup, je suis passée. Et là, deuxième tour, je joue contre une fille qui est 32, Pironkova. Pareil, je gagne 4-6-1, je crois. Je sais pas comment.
On fire.
Voilà. C'était comme si j'étais sur la lancée, quoi.
OK.
Et là, je me rappelle, il y avait Olivia qui m'écrivait, mais tu vas gagner l'US Open, c'est fou.
Tu vas te l'envoyer.
Mais bon, après, je me suis arrêtée quand même contre Venus. J'étais quand même trop impressionnée. Je pense que j'ai même pas vraiment joué avec tous mes moyens, quoi. Tellement j'étais impressionnée.
Et ces 2 premiers tours, ils ont fait partie de ces jours où tout se réussit quand les planètes sont alignées et que tu sens trop bien la balle, c'est ça ?
Il n'y a pas que le tennis, il y a tout le reste qui rentre aussi. Enfin, même les matchs, même les balles où on croit qu'elles ne vont jamais rentrer, le let au bon moment, enfin, c'est fou, quoi.
Incroyable. Tu saurais l'expliquer un petit peu mentalement ce qui se passe à ce moment-là ? Comment ça se produit ?
Oui, je pense que ça vient avec une certaine positivité, avec une énergie. Parce que là, quand même, à chaque fois que quand j'ai fait mes meilleurs résultats, c'était toujours un petit peu ça. Parce qu'on finalement, on gagne un tournoi, parce qu'à un moment donné, il y a un point important qui passe. Et je pense que c'est un état d'esprit, c'est une énergie. Parce que voilà, quand on est négatif, forcément, ça rentre moins, ça joue moins pour nous, quoi. Donc ça doit être un petit peu ça.
Quel est ton coup le plus naturel
Le coup droit.
et le coup ou la partie de ton jeu que tu as le plus travaillé, le plus fait évoluer?
Allez, le jeu au filet.
Est-ce que tu as travaillé avec un préparateur mental pendant ta carrière?
Un tout petit peu, mais pas énormément, parce que j'ai remarqué, peut-être c'était aussi un préparateur qui m'allait pas trop, mais j'ai commencé à trop réfléchir. Et à un moment donné, je me dis que sur le court, parfois, il faut penser à rien du tout. Et voilà, il faut essayer de gagner tous les points, il faut essayer de simplifier.
Ouais.
Et donc, moi, ça m'a plus aidé que de me prendre la tête avec des théories. Mais bon, après, je pense que ça peut aider quand même. Donc, je ne veux pas du tout juger les préparateurs mentaux ou mentaux. Mais pour moi, ouais. Et du coup, là, dernièrement, j'ai plus investi l'énergie pour essayer de trouver un préparateur mental.
Tu me parlais de ta volée, tu l'as aussi vachement progressé parce que tu jouais beaucoup le double, ça t'a aidé. Enfin, comment t'as réussi à
Oui,
concrètement travailler?
je pense qu'elle est bien, ma volée, la technique, elle est bien, mais c'est vrai que j'ai beaucoup dû la travailler parce que si en double, j'avais pas forcément les bons schémas, le placement, quoi faire avec la première volée, par exemple quand je monte en match, où est-ce que la placer? C'était moins, un petit peu moins naturel chez moi, donc forcément, elle a beaucoup travaillé.
Aussi, tu es assez grande. Est-ce que le service est une arme chez toi ou tu t'en es pas trop
Oui,
servi?
j'ai bien servi quand j'étais plus jeune. J'ai eu un problème à l'épaule, au tendon, un peu tout ce que tout le monde a, donc l'attache du biceps. Et du coup, j'ai souffert un petit peu, j'ai dû m'arrêter, j'ai eu des piqûres, des infiltrations. Et depuis ce moment-là, ben voilà, j'avais un petit peu plus de mal au service. Je servais avec moins de puissance. Mais c'est vrai que là, dernièrement, quand j'ai de nouveau atteint mon meilleur classement, c'est parce qu'aussi mon service, il était au rendez-vous. Et ça aide énormément quand même quand on a un gros service.
Yes. Quel a été ton plus gros frisson sur un court en termes d'ambiance?
Oh là là, oui, c'était en 2013 contre Sloane Stephens. C'était pareil encore à l'US Open. Je la joue donc au premier tour sur le stade d'Armstrong. Finalement, je perds 7-6 au troisième avec un stade plein à craquer. Et là, le frisson, c'est vrai qu'il n'était pas pour moi, ou allez, disons, c'était pas positif, un frisson positif pour moi. Mais je me rappelle, c'était un point ultra important, un gros rallye. Un gros échange, je monte au filet et elle me lobe et je vois déjà quand la balle elle monte que voilà, je suis sur le mauvais pied, je vais pas pouvoir réussir à prendre le lob et je la vois passer sauf que le public réagit pas encore. Et à ce moment-là, je sais que ça va venir au moment où le public il a réalisé ben, que j'ai perdu le point et que le lob enfin qu'elle a fait un gagnant avec le lob, le stade commence à exploser. Enfin, ils ont fait tellement de bruit. Et là, je vis comme les larmes qui montaient à la tête, quoi. C'était un énorme frisson. Enfin, c'était l'énergie qu'il y avait dans ce public. Et je pense que c'est grâce au public ben, qu'elle avait gagné le match parce que je menais tout le temps. Et oui, c'est vraiment un moment qui a fait très très mal et je vais plus jamais l'oublier, quoi.
Et au contraire, le moment qui t'a procuré la plus belle émotion, mais avec la victoire au bout.
Ah là là, je pense que c'était à Bol,
En
en
Croatie.
Croatie. C'est ma plus grosse victoire. Et avant ce tournoi, j'étais à deux doigts d'arrêter le tennis. J'étais arrivée au plus bas mentalement. Et puis aussi, j'avais l'impression de plus pouvoir mettre un pied devant l'autre, de plus pouvoir jouer au tennis. Quelques semaines auparavant, j'avais même abandonné un match parce que je m'étais pas un pied devant l'autre et je savais pas comment gagner un point. Et là, donc, j'arrive à Bol et en décidant que j'allais arrêter ma carrière à Wimbledon, donc je me suis dit, allez, je passe l'été, j'arrête ma carrière après Wimbledon et puis c'est bon. Et j'étais tellement décontractée, je pense, que j'ai commencé à gagner match par match et à jouer mon meilleur tennis. Et je sors de Bol en jouant le meilleur tennis de ma vie. Alors qu'une semaine auparavant, ben, je n'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. Et donc là, je me rappelle quand j'ai gagné la balle de match, je me suis écroulée par terre. Et j'avais comme, voilà, une sensation de...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je sais pas, j'étais tellement heureuse. C'était un adrénaline incroyable.
C'est fou.
Et c'est pour ça, en fait, qu'on joue au tennis. Parce que c'est pour ça qu'on donne tout. Et je pense que c'est pour ça, pour tous les sports aussi. C'est fantastique.
Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable la force du mental, du lâcher prise au moment où t'as le moins d'enjeux, ben c'est là où tu finalement joues le mieux. La Fed Cup, concernant la Fed Cup, est-ce que t'as une anecdote ou deux en particulier que tu pourrais nous raconter? Parce que t'as fait pas mal de rencontres, j'imagine.
J'en ai plein, mais je peux pas te les raconter.
Ah, Minoul, va falloir...
toutes les conneries qu'on a faites, non, là, je peux pas en Fed Cup. Je veux pas trahir mes coéquipières.
T'as bien raison. Meilleur souvenir sportif, alors on va rester dans ce domaine-là.
L'année dernière,
okay.
La toute première fois de ma vie qu'on joue au Luxembourg, parce qu'en fait, le Luxembourg, on était toujours dans les groupes Europe-Afrique 1 ou Europe-Afrique 2.
Ouais.
Parce que dans les groupes mondiaux, tu joues, tu avais les matchs à la maison et puis tu avais les matchs en externe, ou comme on dit. Et nous, on était toujours en groupe pendant une semaine à un endroit où il y avait toutes les équipes. Donc, il y avait 8 équipes, par exemple, en Norvège. Et là, c'était pour la toute première fois que le Luxembourg l'a organisé. Donc, on était à la maison et on était Europe-Afrique groupe 2. Et donc, on a gagné tous les matchs jusqu'au play-off. Et au play-off, on devait jouer contre la Tunisie. Donc, notre deuxième joueuse, Eleonora Molinaro, bat la deuxième Tunisienne. Et moi, je dois jouer contre Ons Jabeur, qui était 50 mondiale.
Ouais.
Et si je gagne le match, ben, on monte de groupe. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une ambiance un peu d'équipe dans toute la salle. C'était plein. Les gens, ils sont venus avec les drapeaux. C'est vrai que, allez, quand on regarde la France, ils ont ça à chaque rencontre, hein, parce que c'est un grand pays, parce qu'ils ont beaucoup de fans. Mais chez nous, Luxembourg, c'était quand même très spécial, parce que voilà, ils nous voient jamais jouer, et puis on n'est pas très nombreux. Et là, il y avait une ambiance de fou. Il y avait toute ma famille, mes amis, il y avait le public, et c'est vrai que ça restera mon meilleur souvenir.
Et donc, tu bats 11 Jabeur?
Je bats 11 Jabeur.
Combien?
J'ai mené 5-2 au premier et ouais. Je gagne 7-5-6-1. Et j'ai vraiment fini en volant, je crois. Et du coup, ouais, c'était une belle fête après.
Ouais, belle victoire. Voilà, c'est ce que je voulais te dire juste avant. C'est finalement, après Bol en 2016, tu as bien fait de continuer ta carrière, justement, parce que tu as vécu le retour après ta grossesse, après ton accouchement. Tu as vécu la Fed Cup. Mais déjà, juste après Bol, quelle a été ta prise de décision pour te dire, ouais, finalement, je vais peut-être pas arrêter tout de suite?
Ah, et du coup, on a dit, bon, on continue, on voit comment ça évolue. Parce qu'on avait déjà quand même pensé à la famille, à planifier une famille. Parce qu'avec mon mari, voilà, on savait qu'on voulait avoir des enfants. Et donc, on a dit, bon, on voit comment se passe l'été. Et puis, si on reste un peu sur le même état d'esprit et que je garde cette positivité, ben, on va continuer. Et puis, si je ne l'ai pas, ben, je m'arrête. J'étais sûre que, voilà, si je ne ressens plus cette joie, ben, je m'arrête. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Parce que pour moi, j'avais fait une belle carrière et puis, c'était le moment. Et du coup, voilà, j'ai gagné Bol, je me qualifie, je fais deuxième tour à Wimbledon, je gagne un gros challenger après, et je remonte assez vite dans les 100. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut jouer tous les gros tournois. on gagne quand même assez d'argent. Et puis, si on est positif dans un bel état d'esprit, c'est quand même sympa. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé toute ma vie, quoi. Ouais. Et du coup, on a dit, bon, allez, on continue.
D'accord. Comment tu as rencontré Tim Sommer, ton compagnon, qui est également ton coach ?
Il était toujours sur le circuit. Donc, on s'était croisés de temps en temps. Et puis, à un moment donné, il y avait ce moment. Je me rappelle, c'était au tournoi du Luxembourg où je suis rentrée. On était tous les deux célibataires à ce moment-là. Et je ne sais pas, il y a eu un déclic. On a commencé à discuter. Et puis, voilà, on a pris contact comme ça. Et puis,
Et commencer de vivre le circuit avec son homme, finalement, comment ça marche ?
Écoute, je ne sais pas, je ne peux pas dire si c'est bien ou pas bien. C'est vrai, allez, soyons honnêtes, il y a des moments durs quand même parce qu'on passe énormément de temps ensemble et puis on mélange quand même le métier avec la vie privée. Et allez, quand on a des bons résultats, c'est vrai que c'est bien, mais quand il y a les moments durs, c'est pas facile pour le couple non plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, pendant 2 ans, on était ensemble, mais moi, j'avais mes entraîneurs de mon côté. Et après, on a décidé effectivement de voyager ensemble parce qu'à un moment donné, les relations à distance, c'est pesant. Et c'est quand même, à un moment donné, on veut plus avoir des relations à distance parce que j'ai que connu ça jusque-là.
Ouais.
Et du coup, je pense qu'un bon mélange de temps en temps avec lui, on aurait peut-être dû mixer un petit peu de temps en temps ensemble et puis de temps en temps aller prendre un kiné. Ça aurait été le mélange parfait. Mais bon, finalement, pour nous, ça a bien marché. Voilà.
Et puis ça te coûte moins cher, non ?
Oui, effectivement, on partage la même chambre, donc pas besoin de payer une deuxième chambre.
Allez là, c'est bon ça. Et donc au tournoi de Wimbledon 2017, tu révèles que tu es enceinte de 4 mois. Tu l'as appris pendant le tournoi ou comment s'est passée l'histoire ?
Non, je l'ai appris avant.
Ouais.
Et du coup, voilà, c'était la panique parce que je ne savais pas, que c'était à ce moment-là. Et du coup, je pensais que je devais m'arrêter sur le coup. Et j'ai parlé à plusieurs médecins qui m'ont dit qu'effectivement, si ça ne me gênait pas, que tout allait bien, que je n'avais pas de problème physique, que je pouvais continuer sans problème, ils m'ont dit.
Jusqu'à combien de temps ? Combien de mois ?
J'ai demandé oui, mais jusque quand ? Et là, il y avait un médecin même qui m'a dit, je ne sais pas, mais bon, c'est vrai qu'au 6e mois, peut-être le ventre, il va te gêner un petit peu, il me dit.
Sans blague.
Il m'a dit, je ne vais pas quand même... Je ne vais quand même pas continuer aussi longtemps. Et du coup, on a dit, on continue, on va voir. Parce qu'effectivement, s'arrêter du jour au lendemain, après, ça fait long sans... Voilà, si on me dit que je peux continuer à jouer. Et du coup, on a continué. Et puis, on voyait de semaine en semaine comment ça allait. Et puis, on a trouvé que, après Wimbledon, c'était le bon moment.
Et mentalement, pendant le tournoi t'arrivais à jouer libéré ou c'était impossible ?
Écoute, jusque-là, j'arrivais à jouer libéré, oui, je pouvais jouer. Je me suis entraînée tous les jours et puis j'avais les matchs où j'avais gardé mon niveau. Mais c'est vrai que pendant Wimbledon, sachant que ça allait être mon dernier tournoi et en plus que c'était un grand chelem, c'est vrai que j'avais, au moment quand j'étais sur le court, j'avais quand même plein de choses dans ma tête. Ouais. Donc, c'était pas la même chose.
Pas dû être facile contre Francesca ce premier tour.
Le match, il avait été interrompu, ça avait commencé à glisser. Et puis c'était, elle joue quand même. Bon, c'était pas sa spécialité le gazon, mais elle était quand même très forte avec son slice, ses montées à la volée. C'était un match dur.
Tu savais que tu allais revenir après ton accouchement ou tout ça c'était encore inconnu?
Non, je savais parce que j'avais un bon classement aussi au moment où je m'étais arrêtée. Mais on s'était dit, j'essaye de revenir parce que j'aimerais bien me remettre en forme. Je sais pas, j'aimerais bien avoir encore une fois la sensation d'athlète. Et aussi parce que j'avais encore un bon classement protégé. Donc, moi, dans ma tête, je pensais que j'allais faire utiliser mon classement protégé et que j'allais arrêter après ça. Et finalement, je pense que en 8 mois de temps, je suis remontée dans les 100.
Incroyable.
Et voilà, j'ai joué encore une fois mon meilleur tennis et j'ai enchaîné. C'est, enfin, physiquement, je pense que j'ai jamais été mieux.
C'est fou ça. Et comment tu l'expliques ? Tu t'es entraînée comme jamais ou mentalement tu étais libérée ?
Non, je me suis quand même bien préparée. Et puis je pense que mentalement c'était plus du tout ma priorité. Mais par contre, quand j'étais sur le court, je donnais tout. J'avais une concentration de fou parce que je me disais, allez, j'ai une grosse responsabilité par rapport à ma famille. Ouais. Si déjà on voyage ensemble, je fais mon job quoi. Et donc bizarrement, quand j'étais sur le court, j'étais calme, mais par contre, j'étais prêt à tout donner.
Ah, tu étais en mode guerrière louve pour nourrir la famille.
Je ne sais pas si c'est les hormones de nouvelle maman qui font ça. Ou...
Tu as partagé un peu avec Serena qui t'a donné des tuyaux ou pas?
On a parlé un petit peu, mais on vit quand même sur une autre planète.
Ouais. Cette finale, peut-être, tu peux nous parler de ce parcours à... C'était où? C'était à Stadt.
Ah oui.
Dans un cadre incroyable. J'adore ce tournoi. J'y suis allé avec des amis. Comment tu as vécu cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
C'est fantastique. J'y suis allée avec ma mère et ma fille. Donc, voilà, comme je savais que ça allait être beau, elle était tellement contente de venir. Et du coup, voilà, j'allais faire mes entraînements. Et puis, je revenais, je retrouvais ma maman et donc ma fille. Et puis, on avait énormément de temps à côté des entraînements, pour faire des petites balades. On avait un bel hôtel.
Ouais.
Donc, c'était... Voilà, comme je disais avant, quand on se sent bien et qu'on est positif et qu'on passe un bon moment, souvent, tout vient ensemble. Et voilà, moi, j'aime bien jouer en altitude. J'avais déjà bien joué à Gstaad, je crois, deux années avant ça.
Ouais.
Et du coup, oui. C'est venu,
et la finale contre Alizé, c'était quoi? C'était une marche trop haute? Comment s'est passé le match?
Oui, la finale, allez, j'étais tendue avant la finale. Donc, je pense que j'ai perdu un petit peu d'énergie. J'avais quand même pas mal de matchs dans les jambes. Bon, Alizé aussi. Mais je pense que physiquement, elle est quand même elle est très forte. Et puis moi, je commençais déjà à fatiguer. Et voilà. J'avais une balle de 7, je crois, dans le deuxième set et j'ai pas réussi à la convertir. Mais j'ai fait un super tournoi, j'ai joué mon meilleur tennis, j'ai battu Vondrousova, je crois, en demi.
Ouais.
Où j'ai fait un gros match. Et puis, c'est vrai que j'aurais aimé gagner le titre, mais voilà, Alizé, elle était trop forte et je pense un peu plus expérimentée à ce niveau-là.
Et pendant tes matchs, qui prend soin de... C'est une fille que tu as?
Une fille, oui. C'est mon mari.
Ouais.
De temps en temps, ma mère.
Mais ton mari, quand il est, s'il est ton coach, il peut regarder ton match quand même? Enfin, comment ça se passe?
Oui, c'est marrant en fait. Non, il regarde pas mon match, mais on a, voilà, il y avait des moments, par exemple à Séoul, j'ai joué sur Central et le Players Lounge, souvent, il est dans les infrastructures du central. Et donc, quand notre fille, elle faisait sa sieste ou elle était avec lui au Players Lounge, lui, il regardait de la télé. Et puis, au moment où il avait l'impression de venir sur le court et faire du on-court coaching, il l'a laissé ou à une autre joueuse et il filait vite sur le court. Il me disait 2-3 trucs et puis il repartait. Donc ça, c'est quand même marrant.
C'est la nouvelle mascotte de la WTA.
Ouais, je sais pas. En tout cas, non, là, elle est un peu plus grande, donc je pense qu'elle va pouvoir commencer à être assise dans les tribunes.
Si un jour elle t'annonce qu'elle veut devenir joueuse de tennis professionnelle, tu lui dis quoi?
Si elle veut vraiment le faire, je vais l'encourager. Pour moi, l'important, c'est qu'elle trouve son chemin et qu'elle soit heureuse dans ce qu'elle fasse.
Yes. Concernant tes réseaux sociaux, est-ce que c'est toi qui les gères? Combien de temps tu passes par jour dessus? Comment tu fais marcher toute cette petite activité?
Oui, c'est moi qui les gère.
Ouais.
J'aime bien y mettre tout ce qui tourne autour de mon tennis, de mes matchs, des tournois. j'aime bien rester quand même assez professionnelle. Donc, voilà, je sais que je pourrais mettre plus un petit peu pour les gens, mais j'aime bien garder le privé. Et puis, je ne pense pas tout le temps à faire des stories, à avoir mon téléphone en main pour tout filmer. Donc, je pense que je suis un peu de la vieille génération.
Justement, en parlant de cette génération, quand j'ai eu Alizée Cornet sur le podcast, elle me disait que elle, ça fait un moment qu'elle est là aussi. Ça va faire, mine de rien, ça va faire une quinzaine d'années.
Ouais.
Elle me disait que l'ambiance avait vraiment évolué dans le vestiaire. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, c'était très individualiste. Les filles n'étaient pas forcément là pour être copines, alors qu'aujourd'hui, c'était un petit peu plus détendu. Est-ce que tu as ressenti ça avec le temps, ou comment tu as vécu cette histoire-là, toi, qui est là depuis longtemps aussi?
Oui, peut-être au début, parce que voilà, on était toutes jeunes et puis nouvelles. C'est vrai que les filles, elles veulent intimider un petit peu, elles ne s'ouvrent pas forcément. Mais là, honnêtement, moi, je vois tout le monde pareil. Donc, si j'ai envie de parler à quelqu'un, je leur parle. Et puis, si je vois que ça ne colle pas, ben, tant pis, je lui parlerai plus. Mais je n'ai pas la concurrence en dehors du cours. Je pense que l'expérience, et puis là, je fais ça aussi, qu'on arrive à séparer les deux. Et c'est vrai qu'il y a quand même les jeunes, il y en a plein qui sont sympas. Donc, non, c'est vrai que... Bah, un peu comme partout, hein. Il y a des filles ou des collègues avec qui on s'entend bien, et puis d'autres où on n'a pas trop de...
d'atomes. Ouais. Ouais. Ton tout premier sponsor, vêtements et raquettes, c'était lesquels?
Nike et Wilson.
Ah, et t'es toujours resté chez Nike finalement?
Non, là ça fait un moment que j'ai pas de sponsor vestimentaire.
D'accord.
Je suis un petit peu... Allez, j'aime bien Nike quand même, et puis... Et du coup, comme là, j'ai maintenant à mon âge, à mon classement, c'est un peu plus dur de trouver des sponsors, surtout des sponsors qui payent. Donc, du coup, j'aime bien un peu mettre ce qui me plaît. Et j'ai pas envie d'avoir juste des vêtements et de devoir mettre quelque chose qui me plaît pas forcément.
Ouais.
Donc, j'ai décidé que plutôt d'acheter mes vêtements.
Et tu te souviens du tout premier carton de vêtements que tu as reçu?
Oh là là, c'est fantastique, c'était en junior, c'était comme Noël, quoi.
Génial.
Ouais.
Et c'était des tenues, des robes Nike, des choses comme ça?
Oui, en plus, à l'époque, ils donnaient vraiment beaucoup, et c'était plusieurs collections. Donc, je me rappelle, une année, avant Roland, j'avais reçu la collection de Mauresmo, c'était un truc. Par exemple, on avait la collection Mauresmo, on avait la collection Sharapova. Enfin, ils nous mélangeaient tout, quoi. Alors
sympa.
Que maintenant, j'ai l'impression qu'on met la même chose pendant 4 mois.
Et tu es toujours chez Wilson aujourd'hui?
Oui, toujours chez Wilson.
OK. En termes de gains, tu as gagné 2 043 944 $ sur l'ensemble de ta carrière, en prize money en tout cas.
Oui.
Et tu as essentiellement évolué sur le circuit secondaire, j'ai l'impression.
Oui.
Est-ce que tu as réussi à mettre de côté, ou alors les saisons coûtent trop cher? Enfin, comment tu as géré cet aspect-là?
Non, je pense que j'ai bien géré ma carrière. J'ai toujours joué en match par équipe. J'ai quand même eu des contrats intéressants. Voilà, je pense que j'ai bien géré. Je pense, en jouant les grands chelems quand même, comme tu as dit, 20 grands chelems tableaux, ça aide aussi financièrement. Et donc, j'ai commencé à bien jouer les derniers... Allez, depuis 2012, donc les 8 dernières années. Avant ça, j'ai pas gagné grand-chose. Donc, on peut compter un peu sur les 8 dernières années. Donc là, en ce moment, je me trouve bien financièrement. J'ai pu mettre de l'argent de côté.
Yes.
Et donc, voilà.
Et les matchs par équipe, tu les fais dans plusieurs pays ou seulement chez toi?
Oui, en France, en Allemagne, au Luxembourg, et j'ai les ai fait en Suisse aussi.
C'est pour ça que tu parles toutes ces langues.
Ouais, non, à la base, parce qu'au Luxembourg, en fait, on est obligé d'apprendre déjà le français et l'allemand.
Ouais.
Parce que le luxembourgeois, personne ne comprend. Donc... le français et l'allemand, c'est obligatoire. Et puis, l'anglais plus tard. Et puis, l'italien, c'était parce que mes parents, ils sont d'origine italienne.
D'accord.
Et on parle italien à la maison. Donc, voilà.
J'ai lu dans une interview, tu disais que tu n'étais pas forcément hyper connu, reconnu dans la rue arrêter ou quoi, parce que, alors que tu es numéro 1 luxembourgeoise depuis 9 ans, je crois. Oui. Comment ça se fait?
Ben, je pense que les Luxembourgeois, ils sont discrets. Ouais. Je pense que tout le monde connaît mon nom et que, voilà, je pense qu'il y en a qui me reconnaissent dans la rue. Mais ce n'est pas comme dans les pays un peu plus du sud où, voilà, il y a plus de tempérament, il y a plus... Les Luxembourgeois, ils sont très discrets, un peu plus fiers. Donc, ils ne montrent pas trop.
D'accord. Pour terminer l'interview, Mandy, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Oui. Quel est l'échec dans ta carrière qui t'a le plus appris?
Oh, qui m'a le plus appris? Honnêtement, j'en ai eu tellement. Je pense que j'ai appris après chaque défaite. Mais là, maintenant, quand tu me demandes comme ça, je ne sais pas. À chaque fois, quand les défaites ou, qui m'ont fait le plus mal, c'était définitivement les deux fois contre Sloane Stephens.
Et qu'est-ce que tu en as tiré de ces défaites-là?
Rien, elles font toujours mal.
Oh, je suis désolée, Mandy, putain. Je suis désolée de tourner le couteau dans la plaie.
Non, je sais pas. Non, j'ai dû en tirer quand même du positif, mais... Allez, je peux pas te dire des matchs maintenant exactement lesquels, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des défaites où, quand on y repense, il y a eu des déclics où on est devenu meilleur après. Mais je peux plus te dire contre qui ou quand.
Après, il y a cette période aussi dont tu nous as parlé au départ où, quand tu étais jeune, tu conseillais peut-être d'investir un peu plus dans sa structure. Ça fait partie aussi des choses aujourd'hui sur lesquelles tu as un regard un peu d'experte.
Ah oui, bien sûr. Et puis aussi d'apprendre à analyser les défaites aussi. Parce que c'est vrai que si on perd et qu'on n'y réfléchit pas ou on n'essaie pas d'apprendre pourquoi, ben, ça ne sert à rien.
Yes. Et au contraire, quelle est ta plus grande fierté?
Ma famille.
Yes.
C'est pas bon. Relié au tennis.
Ok. Quelle est ta définition de la richesse?
Le bonheur et puis la santé.
Merveilleux. Simple et efficace. Si t'avais pas été, si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu aurais fait quoi?
J'ai jamais réfléchi parce que dans ma tête, ça a toujours été le tennis.
Ça, quand c'est clair, au moins, tu vois, on gagne du temps.
Ouais.
Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne?
Concrètement, je sais pas, mais c'est vrai que tous les jours, j'essaye de, voilà, à chaque fois que je croise les gens. Ben voilà, d'être gentille, d'être polie, d'être souriante. Je ne vois pas pourquoi on devrait ne pas être sympa avec les autres. Donc j'essaye d'apprendre ça à ma fille aussi, d'être toujours respectueuse envers les autres gens. Et ça aide dans la vie de tous les jours parce que souvent c'est rendu aussi.
Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie?
Je pense le fait de jouer sur les plus gros cours au monde, sachant que toutes ces personnes ont payé un ticket pour venir voir un match où je fais partie, quoi. Et ça, j'arrive pas à le comprendre parce que c'est moi, quoi.
C'est bon, ça. Bon, après, j'avais une question, c'était comment gère-t-on le fait d'être en couple sur le circuit? Mais on en a déjà parlé, donc ça, c'est bon. Quel est le plat que tu cuisines le mieux, Mandy?
Je dirais les pâtes bolognaises avec la recette de ma mère.
Ah, quel est le secret du coup?
Il faut que la sauce, elle cuisine longtemps, 3 heures, sinon elle est aigre.
Ah oui, d'accord, mais tomate?
Oui, non, il faut d'abord mettre les oignons, après il faut mettre le bœuf haché.
Ouais.
Il faut mettre du sel et du poivre, après tu mets la pulpe de tomate, ou comme on dit, la tomate. Tu mets une carotte, un petit peu de basilic, et tu laisses cuire. Ça se dit cuire?
Oui, bien sûr. Mijoter.
Ouais, pendant 3 heures.
Waouh. Un plat de confinement, il faut avoir le temps.
Ouais, simple mais efficace.
Est-ce que tu bouquines un peu? Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie?
Ma vie, non. Mais j'aime beaucoup lire. Et puis, j'étais énormément sur les livres de Guillaume Musso et Marc Lévy. Donc, peu dans ce style-là.
Ok, très bien. Est-ce que tu as un film référence à nous citer?
Le Dîner de cons.
C'est marrant, il est ressorti plusieurs fois dans les épisodes que j'ai pu faire.
Il est génial, en fait. On peut le regarder à chaque fois et Bon, il y en a beaucoup des bons films, mais celui-là, il me fait tellement rire.
Et le cinéma luxembourgeois se porte bien ?
À vrai dire, je ne sais pas trop.
Quel est le concert le plus ouf auquel tu as assisté ?
C'était peut-être, j'hésite entre Muse dans à Stade Saint-Denis.
Ouais.
Ou Bruno Mars, bon, c'était un petit concert au Luxembourg, mais je trouvais qu'il avait, mis le feu à la salle.
C'est bon ça. Tu as dit que tu ne faisais pas appel à un préparateur mental, mais est-ce que tu pratiques la méditation ?
Non.
Rideau. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie ?
C'était quand j'avais l'opération de mon genou, alors que je ne pouvais rien faire et je n'avais pas non plus... voilà, j'avais pas d'université ou quoi que ce soit et je me demandais où est-ce que mon chemin m'allait porter.
Et aujourd'hui, quels seraient les mots de la Mendy d'aujourd'hui à la Mendy de l'époque qui était blessée au genou pour la coacher, un peu la driver et la rassurer aussi, tu lui dirais quoi ?
Fais les choses à 100%, crois en toi et sois vraiment sérieuse du début jusqu'à la fin et les choses vont arriver comme tu le souhaites.
Yes. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ?
Non, pas forcément. Enfin, il y en a des biens, mais il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit.
Tu me l'enverras. Live, Mendy, il va falloir que tu sois très concentré. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast, à qui tu donnes le relais et que tu pourrais nous aider à avoir pour parler tennis ?
Qui tu veux avoir ?
J'ai pas noté vraiment de nom autour de ta carrière. Pour le moment, on est sur des francophones. Donc, ouais. Je sais pas si tu es proche de Kristina Mladenovic. On aimerait bien la voir.
Je suis pas très proche. Ah. Allez, tu demandes à Alizé ou à Pauline.
Alizé, elle m'a dit qu'elle était plus proche de Caro, mais pas Kiki. Pauline, ouais, je peux lui demander. Non, je sais pas, peut-être que tu penses à quelqu'un dans le tennis masculin, féminin, coach, joueur, peu importe.
Ah, écoute, je peux t'avoir toute mon équipe du Tennis Club de Paris.
Merveilleux ça. Ouais. Et il y a qui dans l'équipe ?
Il y a des petites jeunes, c'est Margot Hierolimos, Lou Broulot, il y a aussi Amandine S.
Ouais.
Qui est connue, elle est aussi très très mignonne.
Bah, Amandine. Sinon...
Ouais, ouais. Voilà.
Amandine S. Et puis la première, excuse-moi, c'était
Margot Hierolimos.
Ouais, ben si tu peux nous mettre en contact avec ces deux joueuses, ce serait top.
Ouais, ok.
Ben, un grand merci,
Mathilde. Sympa, en tout cas. Merci à toi.
Allez, à bientôt. Ciao.
Allez, ciao.
Merci aux vraies légendes qui sont encore là, les puristes qui écoutent jusqu'au bout. Un grand merci, Minoul, d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours avec ton sourire rafraîchissant. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description. Il prend 4 minutes à remplir montre en main et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre, toujours dans le but de vous régaler. Venez nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1 qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne. Et vous lire est tout simplement un régal. Alors un grand merci à Aurel, Pistol Pete, Lucas, Oli, Valbon, José et Ferici pour vos commentaires adorables. Vous êtes vraiment lâchés cette semaine et m'avez royalement fait kiffer. Mention spéciale pour Alban qui nous écrit « Les goats du podcast, incroyable source d'inspiration tennistique. Ces podcasts sont à conseiller à tous les passionnés de la raquette fissurée. Vivement Marat, bise !» Déjà, quand on arrivera à voir Marc Rossé, ça sera une belle victoire en soi. Alors Marat, déjà, ça sera en anglais. Et en effet, vivement qu'on arrive à le faire. Merci aussi aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description parce qu'entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est encore une fois juste en dessous en description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci pour vos coups de pouce pour le sondage, le bouche à oreille, les commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. N'oubliez pas que tous les liens sont juste en dessous en description. À mardi prochain, les légendes. Prenez soin de vous. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.